de sérieux, qui est même reconnu par la droite. Les seules critiques qu'il a essuyées, Bernard Cazeneuve, c'était au moment des attentats de Nice. Le dispositif de sécurité en juillet dernier avait été remis en cause et là, il avait été un petit peu éclaboussé. Mais il y avait eu un corps, le gouvernement avait fait corps autour de lui. Le président de la République, le Premier ministre, avait soutenu Bernard Cazeneuve. Et là, enfin, c'est en fait la consécration de sa carrière politique. Il devient Premier ministre.
Alors, à la place d'un Manuel Valls, que vous n'avez pas épargné au cours des derniers mois, Gérard Filoche.
Au cours des 4 dernières années.
Des derniers mois, peut-être même avant. Des dizaines de mois.
C'est parce que c'était une erreur de casting, Manuel Valls. Il faisait 5% des voix à la primaire et il était plutôt l'extrême droite du parti. Pour aller à gauche, c'était pas l'homme qu'il fallait. Et en fait, pendant 4 ans, il a fait même de la surenchère sur François Hollande. C'est lui qui était à l'origine des 49-3 et qui a poussé. Et en plus, il a un ego qui l'a poussé à s'opposer à Macron. Macron voulait une loi Macron 2, Valls lui a dit non. Ils ont fait la loi El Khomri, ils ont durci ça de façon abominable, l'attaque contre le code du travail, puis ils ont passé ça par un 49-3. Vous savez, je sais que j'ai dit des mots un petit peu forts hier. Moi, j'aime. Finalement, je l'ai dit parce qu'ils viennent du cœur. Celui qui dit la vérité, il est fusillé. Mais j'aime mieux discuter sur le fond politique. Et je vais vous dire pour le fond politique. 1 300 000 chômeurs de plus pour Manuel Valls. 41 milliards avec Hollande donnés aux employeurs qui n'en ont rien fait. Alors qu'on aurait pu faire tellement de bien dans la sécurité sociale, dans les hôpitaux, dans les services publics, dans les emplois publics. On aurait pu avoir une telle politique, on avait les moyens. On nous dit tout le temps, c'est la crise. Vous savez que je suis de ceux qui n'en croient pas un mot. La France n'a jamais été aussi riche, et les richesses aussi mal partagées. C'est parce qu'il y a des inégalités considérables qu'il y a crise. Et pour corriger les inégalités, il faut augmenter les salaires et prendre sur les dividendes. Je ne cesse de le répéter, mais vous savez, c'est pas des mots, c'est une vérité. Et cette vérité, évidemment, elle ne peut que heurter ceux qui défendent l'orientation de Manuel Valls, et je le dis, l'orientation de Manuel Valls, ça ne permettra pas de battre François Fillon. C'est pour ça qu'il faut que la gauche se reprenne tout ensemble.
Valérie Gaz veut intervenir. Il a essayé de dire un petit peu hier soir, vous l'avez certainement écouté.
J'en crois rien de ce qu'il a dit hier soir.
Éviter la casse sociale, le déremboursement des... Mais il a ciblé François Fillon, vous n'y croyez pas du tout, vous ne laissez même pas le bénéfice du doute, même pas la campagne pour la primaire.
C'est les actes qui comptent, de la démagogie, au bout de 4 ans. Qu'est-ce que c'est un discours mis en scène comme il était hier, à côté de 4 ans de pratique? Je veux dire, en politique, il faut de l'honnêteté, de la sincérité, faut pas de l'artifice, faut pas de la communication, on rend compte de ses actes et pas seulement du baratin pour demain ou après-demain. Il est pour la réconciliation de la gauche, lui qui a écarté toute la gauche de son gouvernement.
Il y
a plus de
Vert
dans le gouvernement, il y a plus de PC, on est divisé, il a écarté même Montebourg, même Hamon, même Taubira, puis maintenant il nous parle de réconciliation. Vous savez, il y a une vieille loi, pour connaître le goût du pudding, il faut le manger. Bah, le pudding, on l'a mangé. Le pudding Valls, on l'a mangé. On l'a mangé. Donc, je voudrais puisqu'il y a une primaire, et je souhaite y être, je dis ça parce que je me sens légitime à parler dans cette primaire. Et j'ai des difficultés à y être. Je n'ai pas les signatures, je n'ai pas les parrainages. Je devais rencontrer hier Jean-Christophe Cambadélis, il n'est pas venu. Christophe Borgel a rencontré mon directeur de campagne. Il lui a dit, je vais transmettre à Cambadélis. Mais malheureusement, je n'ai pas encore la réponse et on est à J-9. Et je voudrais, dans les 9 jours qui viennent, essayer d'avoir les parrainages évidents que je devrais avoir. On m'en avait fait promesse et je vois pas pourquoi d'un seul coup il y a un blocage quand on dit la vérité et qu'on essaie la main sur le cœur de défendre les salariés.
Alors justement, on va écouter, vous avez critiqué tout à l'heure ce discours qu'a eu Manuel Valls. Nous sommes en ligne avec Bernard Debré. Bernard Debré, bonjour.
Bonjour.
Alors hier, il s'est voulu rassembleur, celui qui maintenant brigue la présidence et qui sera donc sur les rangs pour la primaire de la gauche, en disant ce qu'il ne voulait pas être. Et justement, on écoute Manuel Valls.
Je veux me battre contre la droite, ces vieilles recettes des années 80. Je ne veux pas que les fonctionnaires travaillent plus pour gagner moins. Je ne veux pas que les déremboursements massifs de médicaments empêchent les plus modestes de se soigner. Je ne veux pas que nos enfants aient moins de professeurs, que nos villes et nos campagnes aient moins de policiers ou de gendarmes. Je ne veux pas que l'on casse notre sécurité sociale, l'hôpital public, que nos aînés aient moins de protection et que les salariés attendent 70 ans pour toucher une retraite à taux plein.
Bernard Debré, est-ce que vous l'avez pris comme tel, cette énumération lors de cette déclaration de candidature, frais de santé, retraite, fonctionnaire, peut-être une attaque directe hein, contre le programme de votre candidat, François Fillon.
J'aurais aimé dire à M. Valls qu'il lise le programme. J'ai pas vu nulle part des déremboursements de médicaments. Je vois pas pourquoi on déremboursait les médicaments, sauf s'ils sont inutiles. Et ça, la Haute Autorité de Santé a donné des listes depuis très longtemps de médicaments inutiles. Je vois pas pourquoi les fonctionnaires prendraient leur retraite à 70 ans. Ça n'a jamais été dans le programme et ça ne le sera jamais. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup interrogé dans cette déclaration, d'abord, ce sont des mensonges. Et deuxièmement, cet homme qui a divisé la gauche en disant qu'il y avait deux gauches irréconciliables, maintenant veut la réunifier. Et puis, entre nous, il y a une primaire. Je ne sais pas qui va participer à la primaire, mais il y a aussi deux autres personnages qui sont tout à fait respectables, bien sûr. Il y a M. Mélenchon qui ne va pas en primaire, et puis il y a M. Macron qui ne va pas non plus à la primaire. Alors, la gauche est éparpillé, façon puzzle, comme dirait l'autre. Je vois pas très bien ce que va pouvoir faire Monsieur Valls, qui, lui, n'est pas en odeur de sainteté au niveau du Parti Socialiste. J'ajouterais que quand il a dit des phrases très définitives, qu'il allait écouter le peuple, écouter l'Assemblée nationale, et il a quand même pris à plusieurs reprises l'article 49.3 faire passer en force contre sa propre majorité un certain nombre de lois que sa propre majorité refusait.
Donc, malgré tout, un Premier ministre candidat face à un autre ancien Premier ministre candidat, ce sera quand même bilan contre bilan.
Mais excusez-moi, mais il n'est pas encore... Il est candidat aux primaires, il n'a pas été désigné...
Dans l'éventualité qu'il passe, bien sûr, dans l'éventualité. La politique, c'est quand même beaucoup d'éventualités.
Oui, ça fait beaucoup d'éventualités, avec, en plus de ça, une gauche divisée avec Mélenchon et Montebourg. Et, Mélenchon et Macron. C'est une pseudo-primaire avec des gens entre eux qui ne s'entendent pas et qui vont aller rentrer en compétition pour les élections présidentielles avec deux autres représentants de la gauche qui, eux non plus, ne s'entendent pas, parce qu'il y a une gauche d'extrême-gauche, une gauche radicale socialiste, une gauche libérale socialiste. On ne comprend plus rien, les Français ne comprennent plus rien.
Olivier Roucan, vous partagez ce scepticisme compte tenu de l'éclatement de la gauche? Cette primaire n'en est pas une?
Cette primaire est une primaire par définition, mais la question, c'est celle... La chance de Manuel Valls, finalement, c'est l'émiettement de la gauche sociale et syndicale collectiviste, qui a beaucoup de candidats pour occuper un espace qui existe. Mais avoir M. Filoche, avoir Mme Lindemann, avoir M. Hamon, avoir M. Montebourg... Bon, Manuel Valls a des chances de pouvoir capitaliser finalement un score non négligeable, surtout s'il n'y a pas de figure que l'on pourrait qualifier de social-démocrate. Donc Manuel Valls, lui, son enjeu, là, ça va être d'élargir sur le social. Et deuxième remarque, bilan contre bilan, non, parce que on ne fait jamais une campagne sur un bilan. Donc ça va être surtout la question
du projet.
Vos adversaires
sont quand même là pour vous rappeler le bilan.
Oui, mais alors...
Dans la perspective, justement, de la primaire.
Oui, alors, le problème, c'est qu'ils en ont aussi, quelque part. Donc, ils ont été ou ministres ou parlementaires, donc ils ont tous... Alors, c'est relatif, c'est en effet Manuel Valls qui porte le bilan de l'équipe sortante. Bon, mais là, je parlais bilan contre bilan, si Manuel, puisque c'était tout à fait la perspective de tout à l'heure, si Manuel Valls gagnait la primaire et était candidat par rapport à François Fillon. Bon, aucun des deux n'aura trop intérêt à insister sur leur bilan respectif. Hein. C'est
donc
par rapport
de ne pas,
à ceci
de pas
que
se titiller là-dessus les uns les
voilà,
autres.
Hein, bon, voilà, deux petites remarques par rapport à ce qui vient d'être dit, et pour répondre à votre question.
Oui, Caroline, le bilan, ça va être, comme vous le disiez, surtout le débat dans la primaire, hein, entre un Arnaud Montebourg qui va dire « Eh ben, je suis sorti parce que je n'étais pas d'accord », et Manuel Valls qui a joué la carte de la loyauté, malgré tout, avec bien sûr des hauts et des bas, et récemment la mise en cause, la loyauté quand même au président de la République, et qui sort du gouvernement pour être candidat 100% à temps plein. Voilà, ça va se jouer
Bernard,
là-dessus. À
Bernard,
qui on a reproché de porter le bilan de François Hollande?
Bernard Debré qui est en ligne voudrait réagir.
Oui, je dis que c'est un phénomène très particulier, parce que qui a assassiné François Hollande ? D'abord Macron, il l'a pas assassiné complètement, et puis maintenant Valls, qui l'a tué. C'est Valls qui a voulu faire partir François Hollande tout en assumant, sans assumer son bilan. C'est quand même une période très curieuse pour les socialistes, où ils sont tellement nombreux dans la primaire, mais aussi en dehors de la primaire. Nous, à droite, nous avons un candidat qui a réuni maintenant absolument tout le monde. C'est une primaire de droite. Maintenant, il faudrait qu'il y ait, mais ça, est-ce que j'ai des conseils à donner aux socialistes, qui est qu'un seul candidat. Ça n'en prend pas le chemin. Il va y en avoir au moins trois. Un qui sort de la primaire, Macron et Mélenchon.
Gérard Filleul, vous voulez réagir?
Oui, s'il vous plaît. Deux niveaux pour la primaire. Moi, je suis avec Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Marie-Noëlle Lienemann. Et moi-même, on est quatre candidats légitimes, mais on va trouver un accord entre nous.
D'ailleurs, Marie-Noëlle Lienemann...
Bien entendu. Moi, ça fait deux mois que je milite.
Ouvertement dit qu'elle...
Voilà, ça fait deux mois que je milite pour cet accord, pour qu'on se rencontre, pour qu'on fasse les gestes publics nécessaires pour arriver à construire une plateforme, une candidature commune, ce qui est tout à fait à notre portée. S'il y en a la volonté, je l'ai aussi. Donc, ce point de vue...
Est-ce qu'il vaut mieux pas le faire d'ailleurs avant le premier tour de la primaire? C'est quand même donner une image différente, un petit peu restaurer cette image.
On s'interroge même là-dessus. Moi, je veux mes signataires parce que je veux concourir sur le même plan que les autres, mais ça ne m'empêcherait pas de me retirer début janvier si nous sentions nécessaire et possible le fait de n'avoir qu'un candidat parmi nous quatre. Vous voyez, je le dis avec clarté.
Et on peut dire qu'une partie de votre électorat vous y encourage fermement.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viendront voter que pour moi, je le sais.
Mais il y a des gens aussi qui n'iront pas voter s'ils voient que c'est un éclatement total.
Je connais les deux arguments et je milite pour qu'on surmonte cette question et que évidemment on l'emporte à la primaire. Ensuite, Monsieur Debré parle de l'après-primaire, c'est-à-dire, attention, un petit mot. Il y a 1 800 000 personnes attendues selon les sondages pour voter les 22 et 29 janvier. Mais il y a là-dedans, il y a que 40 000 socialistes. Donc ça va être la gauche dans son ensemble qui va départager, hein, le 22-29. Bon, et alors ensuite après le 29, et celui qui aura gagné, je le pense, devra s'adresser à Jean-Luc Mélenchon et à Yannick Jadot notamment, et dire voilà comment proposons un programme de gouvernement commun, et on va gouverner ensemble, donc il faut un seul candidat. Et à ce moment-là, Monsieur Debré, Fillon sera battu. C'est-à-dire que lui, il incarnera à ce moment-là incarnera la réaction totale. Il incarnera l'aile droite du pays. Et à ce moment-là, la gauche, elle sera en capacité de remobiliser, dynamique. Je sais qu'on passe un mauvais moment. Mais on va en avoir de bons et on va faire du bien aux gens.
Olivier Roucan.
Je dirais simplement que vous avez raison de rêver. Hein. Il faut rêver.
Je ne suis pas rêveur, Monsieur Debré, je suis militant. Et vous savez, les militants, rien de grand dans le monde ne s'est fait sans militants. Et rien de grand à gauche ne s'est fait sans unité.
Bon,
Ce sont mes deux maximes.
Permettez-moi de vous dire une chose.
Mais rapidement, parce que nous allons conclure.
Faites vos primaires. Et puis après, voyez si vous pouvez vous entendre avec les deux ou trois autres qui sont candidats. Je ne le crois pas.
Eh ben, écoutez, vous c'est ma volonté. Et parfois, quand il y a une volonté, il y a un chemin.
Gérard Filleul, merci. Olivier Roucan, je vais vous laisser une petite minute pour conclure. On entend rassembler.
Oui, on entend beaucoup, et comme dit la formule, parfois quand on répète un mot, n'est-ce pas, c'est que la réalité s'en éloigne.
C'est incantatoire.
Bon,
on sait aussi quand on veut convaincre, tout simplement.
Mais pour l'instant, ce ne sont pas les faits. Factuellement, la gauche est très divisée, trop de candidats dans la primaire, en dehors. Et en plus des divisions qui sont conflictuelles, c'est-à-dire que vous parlez de programmes communs éventuels, on aimerait bien savoir quelles sont les lignes structurantes d'un programme commun. Donc tout ceci...
Augmenter les salaires, redistribuer les richesses, réduire la durée du travail, faire qu'il y ait des salaires maximaux, une réforme fiscale, une réforme bancaire. Vous savez, Monsieur Cazeneuve, quand il était ministre du budget, il avait dit il y a 80 milliards d'euros de fraude fiscale. Si on récupère ces 80 milliards, tout va mieux dans le pays.
Olivier Roucan, donc on verra, justement, vous disiez tout à l'heure, Gérard Filleul, que vous voulez vous rencontrer pour voir si ces propositions sont compatibles et finalement se mettre d'accord sur une seule candidature. Ce sera vraiment l'événement avant la primaire, voire après le premier tour de cette primaire. Voilà ce que l'on pouvait dire de ces événements politiques en cours en France. Merci à tous et toutes autour de cette table d'avoir été avec nous. Valérie Gaz, Gérard Filleul, Olivier Roucan, Bernard Debré au téléphone, d'avoir été tous avec nous en studio. Merci à Frédéric Misselin, Jacques Alix qui assurait la rédaction en chef, Michael Verne et Yann Eligouin pour la réalisation. Retour de l'actualité tout de suite sur RFI.
Radio France Internationale.